Ça fait quelques semaines ou quelques temps, j'ai posé la question à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, c'est important de demander à Dieu si c'est quelque chose que je fasse tout le temps pour être devant de l'Assemblée, de demander à Dieu, Seigneur, c'est quel le message que l'Église a besoin dans ce moment. Alors, je me rapprochais du Seigneur. Le Seigneur, il parle, il dit tout le temps, c'est important de ne pas oublier, il s'est inversé, qui nous a partagé, et ça fait quelques semaines, André, il est en Apocalypse, quand le Seigneur il est en train de dire à l'Église, j'ai quelque chose contre toi. Il sait que tu as oublié ton premier amour. Je pense que c'est un petit peu le cas de l'Église dans le monde entier. Je pense que c'est un peu le ressenti qu'il y a maintenant dans l'Église. La parole dit que dans les derniers temps, il y aura un, comment on dit, refroidissement. Refroidissement. Il y aura un refroidissement à l'Église. Il y aura un refroidissement dans les relations entre père et fils. Il y aura un refroidissement à niveau de toutes les relations des personnes dans l'Église. Alors, pour moi, personnellement, c'est quelque chose qui me préoccupe, l'état de l'Église. Et on va voir ce matin, qu'est-ce qui représente l'Église pour nous? Qu'est-ce que c'est l'Église? Est-ce qu'on a les fondements clairs de vraiment savoir quelle est l'Église ou pourquoi on est là ce matin? Et c'est pour ça que je viens me poser des questions, et je viens de poser des questions pour réfléchir, pour voir vraiment c'est quelle la raison qu'on a ce matin. Et c'est pour ça que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, moi, je vais nommer cette prédication, quelle est la raison pour laquelle moi, je suis ce matin à l'Église. Quelle est la raison pour laquelle tu es venu ce matin ici à l'église. Alors, on peut trouver plein de réponses. Je peux dire, écoute, moi je suis là ce matin à l'église parce que pour moi c'est important la musique. J'aime bien louer à Dieu, j'aime bien chanter. Ce n'est pas le cas ici dans notre église, mais bon, on connaît peut-être dans les églises africaines ou dans les églises américaines. Que les gens, ils dansent. C'est biblique. Merci, Charles. C'est biblique. Parce qu'on peut danser. On peut louer le Seigneur avec tout notre corps. On va les voir tout à l'heure. Mais peut-être que si tu es là ce matin, seulement parce que tu aimes bien la louange, tu aimes bien la musique, peut-être que tu n'as pas compris ce qu'est l'Église de Dieu. Vous trouvez une autre réponse. Moi, j'aime bien aller à l'Église tous les dimanches parce que pour moi, c'est important d'écouter un message de la parole. Alors, c'est vrai que ça fait partie d'un culte des dimanches. Tous pour écouter ce que le Seigneur il peut nous dire ce matin. Mais ce n'est pas seulement ce petit point au détail qui fait que j'ai envie de venir et d'être à l'église. Et on peut trouver différentes réponses. On peut demander au groupe des gens, pourquoi tu es là ce matin? Alors chacun de nous, on aura une réponse. Peut-être qu'on peut dire, écoute, j'ai la doute, je ne sais pas vraiment si je serai capable d'avoir une relation proche avec Dieu. Alors je vais essayer, c'est pour ça que je suis là ce matin à l'église. Peut-être que nos enfants, il peut répondre et dire, je suis là ce matin à l'église parce que je n'ai pas le choix. C'est mes parents qui m'ont dit, écoute, il faut aller à l'église et je suis à l'église. Alors, ça nous arrivait, je pense, à tous dans un moment. Il y avait un père ou une mère qui disait tout le temps, il faut que tu viennes à l'église. Alors, la meilleure décision, je parle de tout mon corps, que j'ai pris un jour, c'était de faire partie de l'assemblée, de l'ensemble des enfants de Dieu pour être dans une église. Et c'est ça qui est important. Alors, il y a quelqu'un qui pourra répondre aussi à cette question. Il pourra dire, il y a un verset. Je pense que dans la Bible, il y a des versets que des fois, on voudrait couper la page, faire comme ça et jeter par la fenêtre. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais dans la parole de Dieu, quand on est confronté à la Bible, il y a vraiment des versets qui sont difficiles et qui sont durs. Alors, dans ce cas-là, Hébreux 10, 25, on va rentrer à la parole. Qu'est-ce qu'il dit la parole ? Assez très connu, ce verset. Hébreux 10, verset 25. Alors, ne délaissons pas nos réunions. Écoute bien ça. Comme certains en ont pris l'habitude, au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez se rapprocher les jours du Seigneur. Et on voit comme les jours du Seigneur se rapprochent. Alors, c'est à ce moment-là, Église, que c'est important de nous retrouver tous ensemble dans l'unité et dans l'harmonie. Alors, si ce matin, et ma prière, c'est que le Saint-Esprit, il te révèle qu'est-ce que c'est l'Église et c'est quelle l'importance d'être là ce matin. Je pense que si tous, on arrive à comprendre ça, on va avancer comme un seul corps. La parole de Dieu, il nous montre dans les Éphésiens 1, versets 22 et 23. Alors, je sais qu'il y a des chrétiens ici qui ça fait longtemps qu'ils sont à l'église. Je ne veux pas rentrer trop dans les petits détails, qu'est-ce que c'est l'église. Mais je vais évoquer quand même ce matin que l'église, ça vient de là, d'un mot grec qui s'appelle ecclésia. Je pense qu'on a entendu parler de ça quelquefois si on a été habitué à être à l'église. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « ecclésia » ? Il y a deux choses que j'aimais beaucoup quand j'ai regardé ça, parce que j'ai passé à retrouver ce mot, et pas seulement dans le christianisme, j'ai passé à les chercher aussi dans un dictionnaire courant ou normal. Alors, « ecclésia », ça veut dire, en premier mot, « assemblée », »,« unité », et dans un deuxième temps, et c'est ça que j'aime beaucoup, et je pense qu'André, il le répète à chaque fois, et c'est important, Ecclesia, c'est ceux qui sont appelés à sortir. Alors, j'aimerais bien faire attention à les deux mots que je viens d'évoquer. La première chose, c'est qu'on est une assemblée. On est tous ensemble. L'église, écoute bien ça, l'église, ce n'est pas seulement un bâtiment. Dans l'original, Ecclésia, il parlait que des individus. Ça ne parlait pas d'un bâtiment. Ça a dérapé les sens avec les temps, mais ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un édifice. On est très reconnaissant avec Dieu pour ce bâtiment qui a été rénové. Il y a un album de photos que vous pouvez regarder. Je pense qu'il a été plusieurs mois ici en bas. Et moi, quand je l'ai vu la première fois, j'étais étonné de voir toute la transformation et la rénovation et la restauration qui a été faite dans cet endroit magnifique que le Seigneur il nous a donné. Mais je suis là ce matin aussi pour nous rappeler que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un édifice. Ce n'est pas quelque chose que l'homme, même avec ses mains, il peut construire. L'Église, c'est l'ensemble, c'est l'assemblée d'hommes et de femmes qu'ils ont pris la décision un jour de reconnaître ses péchés, de reconnaître qu'on est dans la faiblesse, qu'on n'est pas très fort et qu'on a besoin de Dieu. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, je vais la lire en français, je la traduis, je pense qu'il y a le même sens. Il dit, l'Église n'est pas un musée de chrétiens parfaite. Parce que des fois, les gens qui ne connaissent pas à Dieu, ils vont dire, écoute, je n'aimerais pas aller dans une assemblée de chrétiens parce que là-bas, il y a toujours la critique, il y a toujours la perfection. Les gens, ils vont chercher toujours la perfection. Mais c'est un mythe qu'ils ont mis dans sa tête, tout le monde. Parce que l'Église, ce n'est pas un musée de chrétiens qui sont parfaits. Au contraire, pour moi, l'Église, c'est comme un hôpital pour les personnes qui ont besoin de guérison. N'est-ce pas que c'est ça l'Église? Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que j'ai venu chercher à Dieu. J'ai grandi, des fois je vous partage un petit peu de ma vie, dans une famille catholique. Mais j'ai grandi avec des difficultés, avec des problèmes dans les centres de ma famille. J'ai grandi avec un père alcoolique, une mère qui était toujours victime de cette situation. Alors, j'ai grandi au milieu de la tristesse, de la discussion, de la division d'une famille. Alors, quand on se rapproche de Dieu, et j'avais déjà 19 ans, je me rapprochais du Seigneur et je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas comment je veux arriver à te connaître. Alors, je me rappelle qu'à ce moment, j'ai commencé, j'avais quitté mon pays, j'avais arrivé en Espagne, et à ce moment, j'ai commencé à lire la parole. Et le Seigneur, il a commencé à nous parler. J'ai passé un an entier en Espagne, peut-être un petit peu plus, un an et demi. Et c'était Paula et moi à lire la parole. Et jamais on n'avait été dans une congrégation, dans une réunion de chrétiens. Et quand on a décidé de déménager pour venir la première fois ici en France, je me rappelle qu'on nous retrouvait dans Paris, c'était Paris quoi ? Paris 15e. Et on était à côté de la porte Versailles et on a retrouvé pour la première fois une assemblée, une église. Il y avait un pasteur, il y avait des frères et des sœurs. Et pour nous, ça, c'était une grande bénédiction de trouver des personnes qui vont nous aider dans notre guérison, qui vont nous accompagner dans la prière, qui vont nous encourager dans les moments difficiles. Et c'est ça, vraiment, l'essence d'une église. Alors, l'église, c'est pas, je voudrais répéter ça, c'est pas un édifice, c'est pas un endroit de personnes qui sont parfaites. En tout cas, l'église, c'est un endroit qu'on vient pour être guéri, parce qu'on a tous besoin de guérison. Moi, vous et tout le monde a besoin de guérison, parce qu'on n'est pas parfait. Qu'est-ce que c'est alors l'Église? L'Église, et on va rentrer dans la parole, on va lire Éphésiens 1, versets 22 et 23. Je vais commencer un petit peu avant, dans les versets 21. Là, Christ est placé bien au-dessous de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Ça parle de quoi? Ça nous parle de Dieu qui est puissant. Ça nous parle d'autorité. Alors, c'est Jésus qui a l'autorité. Je disais tout à l'heure. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Verset 22. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et Christ, qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église. C'est important ce verset, parce que ça parle d'autorité. Nous, on a l'autorité comme Église. Pas un par un. Il faut le faire ensemble. Il faut montrer au monde entier. Et on voit comme les disciples, les premières églises, il a fait ça. Il voyait les prodiges et les miracles s'accomplir. Parce qu'il y avait une unité dans les premières églises. Je pense que c'est ça le problème plus grand de l'église maintenant. On a plein de dénominations. Et des fois, quand on voudrait nous présenter devant les personnes, on dit, je suis un chrétien baptiste. L'autre dit, je suis un chrétien évangélique réformé. Et on va nous présenter d'une manière différente. Alors cette semaine, j'ai pensé à ça. Imaginons que quelqu'un vienne te dire, écoute, tu es qui? Et tu vas dire, ah oui, je suis le fils de mon père qui l'a fait ça. Ou je suis le père d'Isabella, de Daniela. Je suis le mari de Paula. Non. Qui es-tu devant le Seigneur? Et tu es un enfant de Dieu. La parole dit que si on a reçu la grâce de Dieu et on a accepté le pardon des péchés, on devient quoi? On devient enfant de Dieu. Et c'est ça notre vraie nature. Je voudrais que tu sois clair ce matin. Tu as écouté plusieurs fois ce message. Mais il faut nous rappeler tout le temps que Jésus il a donné l'autorité à l'Église. Et qu'on est enfant de Dieu. Et qu'un jour, on va partager avec lui toute sa grâce, tout le bonheur et toutes les choses qu'il a préparées. Il a dit, je vais monter au ciel et je vais préparer une maison pour vous. Ça nous parle d'église aussi. Ce n'est pas vraiment la maison, c'est les personnes qu'ils sont dans la maison. Ce n'est pas vraiment ce bâtiment, c'est nous qui on est là ce matin. Parce que je voudrais te dire une chose qui est importante. Tu fais partie de l'église. Tu es une pierre vivante dans l'édifice que le Seigneur il voudrait construire. Tu fais partie de l'église. Il faut que tu sois rassuré que même que dans toute la semaine, tu es au collège, au lycée, dans l'université, dans ton boulot, n'importe quel endroit que tu vas être, tu fais partie du corps de Christ. Et tu as l'autorité qu'il nous a donnée. Parce que la parole dit que lui, il a pris toute l'autorité parce que Dieu l'a donnée à Jésus. Et Jésus, alors, il fait un corps. Nous, on conforme le corps de Christ. Et lui, c'est la tête qui va diriger, qui a l'autorité, qui dit... On va y aller dans quel sens? C'est pour ça qu'il faut nous rapprocher de lui parce que c'est lui qui va nous montrer et qui va montrer à l'Église qu'est-ce qu'il faut faire dans les temps qui viennent. C'est important de chercher le Seigneur face à face. Je pense que des fois, moi, je suis très touché pour ça parce que je ne marre de voir les chrétiens de faire des batailles toujours, de se bagarrer entre eux. De toujours discuter, d'échanger et de ne pas être d'accord vraiment. Et s'il y a quelque chose, je vais approfondir tout à l'heure, c'est que l'unité d'une famille, l'unité de l'Église, ça commence par l'autorité de Jésus. Et c'est lui, le lien, c'est la colle qui va permettre que tous, des différentes nationalités, des différentes manières de penser, on va dire, écoute, on va y arriver, on va être tous ensemble parce qu'il y a un objectif, il y a un but spécifique, et c'est glorifier le nom de Dieu. Et tu sais comment on peut glorifier le nom de Dieu? On peut glorifier le nom de Dieu quand on s'aime les uns les autres, quand on va se pardonner et quand on arrive, même avec notre différence, de marcher tous et d'être tous dans les mêmes bateaux. Le Seigneur, il nous a conduit ce matin ici. Il nous a appelé à un endroit que André, il nous répète tout le temps que c'est un phare, que c'est la lumière qu'on doit partager. Parce que Jésus, il est la lumière. Et il veut que chacun de nous prenne l'autorité, parce qu'on a l'autorité que Jésus il nous a donnée pour aller vers le monde entier. C'est pour ça que quand j'ai choisi deux définitions de l'Église, on est une assemblée, on est un corps, mais avec une mission spéciale. Il sait aller dehors. C'est pour ça que l'Église, ça veut dire aller à l'extérieur. On ne peut pas rester seulement ici entre nous. C'est bien de venir un dimanche pour louer le Seigneur, pour être ensemble, mais le but, il est plus important, c'est sortir de cet endroit, de ces quatre murs et aller dehors. Parce que c'est dehors que les personnes, comme disait ce matin Jérôme, ils ont besoin de consolation, d'amour, de pardon et de trouver l'espérance que toi et moi, on a trouvé un jour. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois, comme je suis colombien, si je trouve un bon restaurant ici en France, ou peut-être quand j'étais à Madrid, et après, je vais retrouver un ami colombien, je vais lui transmettre les bonnes nouvelles. Je vais lui dire, écoute, j'ai trouvé quelque chose de bon, parce qu'on aime la nourriture de notre pays, n'est-ce pas? Moi, je suis colombien, je ne mange pas tous les jours colombien, mais de temps en temps, quand je vais en Colombie ou je vois quelque chose, je dis, ah, ça me rappelle quelque chose et je suis content. Je ne sais pas si c'est seulement à moi, mais quand tu trouves quelque chose de bien, quand tu trouves quelque chose que tu aimes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir pour partager avec les autres pour dire, écoute, j'ai trouvé quelque chose de bien. Et c'est ça qui a fait un disciple, quand il a vu son collègue, et il a dit, écoute, tu viens avec moi, tu vas faire te connaître à Jésus, parce que tu vas voir que vraiment, c'est lui le Messie. Alors, il a ramené un apôtre qui était rajouté à cette église qui venait de démarrer et de commencer. Alors, le chef qui a toute l'autorité, c'est Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut le reconnaître. Verset 23, qui est son corps. Lui en qui habite la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous. Romains 12. Versets 4 et 5. Écoute bien ça. Chacun de nous, ça parle de toi et ça parle de moi. Chacun de nous a donc un seul corps de nombreux organes. Mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ. Et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. Et c'est ça que dit la parole. On est le corps de Christ. Alors, lui est la tête, on fait partie du corps. Alors, je peux être, je ne sais pas, un œil, un bras, un pied. Mais c'est une manière illustrative qui nous montre la parole et ça représente vraiment l'unité et comme on peut avancer dans toutes les choses qu'on voudrait faire. Cette semaine, j'ai regardé par exemple la vie de cet homme qui était très 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 intelligent, c'était Stephen Hawking qui l'a décédé ça fait quelques années. Et ce matin, j'ai vu quelque chose avec ma femme parce qu'il avait une maladie, sclérosis, quelque chose comme ça, oui, dégénératif. Alors, il a commencé à perdre vraiment tous les mouvements de son corps. Mais je pense que jamais il a perdu sa capacité intellectuelle. Alors, pourquoi j'ai dit ça ce matin? Parce qu'il faut que l'Église marche. Jésus, il a fait déjà la partie qu'il avait à faire. Il a fait les 100% parce qu'il a fait tout. Il nous a donné la vie, il nous a donné aussi la vie éternelle. Moi, des fois, je partage et je dis, bon, écoute, le Seigneur, il a fait 50%, il faut que je fasse ma part aussi. Il a donné sa vie, il a tout donné, il faut que j'arrive à comprendre qu'est-ce qu'il faut que je fasse à l'église pour marcher. Imaginons la vie de cet homme. Il avait sa tête, il avait sa capacité, mais il n'avait pas la capacité de dire à son bras, il faut que tu écris. Il n'avait pas la capacité de dire à son pied, il faut qu'on marche, il faut qu'on fait ça. Alors, qu'est-ce que c'est une tête qu'on peut reconnaître que c'est l'unité si ça n'existait pas vraiment l'unité du corps de Christ? Et c'est ça que je voudrais toucher et évoquer ce matin. Il faut que chacun de nous, et je dis parce que je l'ai vécu dans ma famille, il faut que toi, personnellement, tu te rapproches de Dieu parce qu'on vient de lire, c'est uni en Christ. Et c'est lui, comme j'ai dit tout à l'heure, va nous coller. C'est la colle qui permet que nous, on reste soudés. Et ça passe pour quoi? Ça passe pour que toi, toi-même, moi, je, de ton son tombe, je le fasse dans ma vie. Et dire, Jésus, aide-moi à être un élément de construction en pierre vivant et ne pas être un élément de division. Parce que vous savez, il y a quelque chose que l'ennemi, il veut faire dans cette époque. Je pense qu'il arrive à jouer bien son jeu. Il sait diviser l'Église. La parole dit une famille, une maison, une entreprise, une Église divisée ne peut pas marcher. Et c'est ça qui dit la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important l'unité. Et moi, je le répète plusieurs fois, le jeu de l'ennemi à ce moment, c'est commencer pour casser la famille. Et quand on regarde les infos, on voit toutes les informations, on regarde Netflix, on regarde la télé, c'est toujours une attaque directe contre la famille. Et ça commence pour diviser quoi? Diviser quelque chose que le Seigneur a établi, et c'est la famille, c'est un couple. C'est un homme et une femme. Si, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si tu continues à lire Éphésiens 5, 22, 23, le Seigneur il va commencer à faire la comparaison entre la tête que c'est Jésus et le corps de Christ. Il va le comparer entre un homme et une femme. Il dit, l'homme, c'est la tête, l'autorité de la maison. Et sa femme, c'est le corps. Alors, il faut l'aimer. Il faut prendre soin. Et c'est ça qui va attaquer l'ennemi. Parce que c'est directement... Qu'est-ce qu'il cherche à attaquer dans ce moment? L'identité de chacun de nous. Et c'est ça qu'il est en train de casser complètement dans cette génération. Alors, il faut que l'Église se réveille. C'était le message du pasteur Moussa vendredi soir. Moi, j'aimais beaucoup. Parce qu'il disait, c'est le moment, Église, d'agir, de marcher, d'aller devant, de faire ecclésia, sortir dehors, une église qui évangélise, qui partage. Je sais qu'on n'a pas tous les mêmes dons ni les mêmes talents. On va reprendre un petit peu le corps de Christ. Le corps, il parle de quoi? Il parle de mouvements, de bouger. Un corps qui ne bouge pas, un muscle qui jamais, tu vas le fortifier. Alors, à la fin, ça finit pour quoi? Pour rester inservible. Ça ne sert à rien. Et c'est ça. Alors j'ai réfléchi. Je ne sais pas. Tu fais partie de ce corps. Alors, dans l'endroit que le Seigneur il t'a placé, il faut que tu l'aies demain, Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme partie de ce corps dans lequel tu m'as ramené? C'est ça qu'il faut vraiment réfléchir. Pourquoi on est là alors aujourd'hui? Je vais évoquer quatre points ce matin. Il est premier, écoute ça, on est là ce matin unis pour louer le nom de Dieu. Somme 103. À partir du verset 1. Écoute ça, c'est David qui dit « Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint, que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. » Alors tu peux dire, Seigneur, pourquoi c'est important la louange? Pourquoi c'est important que je vienne un dimanche à l'église? Tu sais, c'est important parce qu'on avait soin de proclamer le nom de Jésus. On avait soin de dire comme il est grand, il est magnifique. Il y a plusieurs raisons pour dire ça. Parce que c'est lui qui a pardonné tous tes péchés. C'est lui qui t'a guéri de toute maladie. Qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour et de compassion. Et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, écoute bien ça les jeunes. Et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor. L'Éternel ouvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses autres faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, et plein de patience et débordant d'amour. Moi, j'ai choisi ce verset ce matin parce qu'il évoque plusieurs raisons pour lesquelles il faut que tous les dimanches, quand on est là le matin, on ouvre notre bouche, on lève les mains. Et si tu veux danser, tu pourras danser pour être reconnaissant avec le Seigneur et pour le louer parce qu'il est digne. Il nous a fait la miséricorde. Il nous a donné beaucoup de choses. David, il disait, je ne voudrais pas oublier même toutes les choses que le Seigneur il a fait pour moi. Alors, je vous invite vraiment de tout mon corps à louer le Seigneur. Ce n'est pas voir un spectacle. Ce n'est pas écouter une bonne chanson. Il faut nous centrer vraiment en lui. Parce que des fois, quand on est à l'église, la première chose, c'est que ce n'est pas facile d'arriver à bon heure à l'église. Et moi, je vous comprends. Pour moi, ce n'est pas facile aussi. Et moi, je pense que je n'ai pas le droit de dire ça, mais moi, j'ai trois femmes à la maison. Et ça, c'est compliqué pour sortir un dimanche matin. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, par exemple, ce matin, j'ai pris la douche rapidement, j'ai rentré dans mon bureau, j'ai prié, j'essayais de finir ma prédication. Et après, j'ai monté, je pense que 5 minutes, tac, j'étais dans la porte. Sauf qu'il faut dire, comme ma femme qui m'a rappelé ce matin, ah, c'est qui a fait le repassage? C'est qui a préparé ça? Alors, merci Seigneur pour la vie de ma femme, parce que si je suis là ce matin, c'est parce qu'elle prépare les choses et elle est avec moi. Mais en tout cas, arriver à l'église à bon heure, c'est compliqué des fois. Et je ne sais pas pourquoi. Mais c'est quelque chose que je comprends, qu'il y a quelque chose de spirituel derrière. Et moi, je l'ai dit parce que souvent, quand on était à l'église à Lisbonne, et on habitait pas loin de l'église, c'était à 2 à 3 minutes à pied. Oh là là, quand l'église il est plus à côté, je pense qu'on arrive plus tard. Ah, ça m'est arrivé, hein. Maintenant, j'ai 12-15 minutes de route, mais bon, je ne suis pas là ce matin voilà, pour vous corriger ou pour dire quelque chose. Non, c'est pour vous à venir à l'église, à nous préparer un jour avant pour dire, Seigneur, je suis content parce que demain matin, je vais regarder mes frères et mes sœurs et on va chanter tous ensemble la louange de tout notre corps. Il faut rétablir la louange. Mais tu sais, la louange, ça ne passe pas par un bon musicien. Si je dis on va ramener à Shakira à chanter, je pense que tout le monde dit ah oui, Shakira, elle est colombienne, elle chante bien, chanteur que tu aimes bien. Ça va, mais ça passe par notre cœur. Le Seigneur, il appelait à chacun de nous à faire église, mais il ne prend pas un groupe, il veut des individus, deux personnes. C'est pour ça qu'il aime quand tu chantes, même si tu as la voix comme la mienne. Je ne sais pas chanter, je chante dans la douche. Et après, il y a ma femme qui commence à mettre la musique dans les salons pour ne pas m'écouter. Parce qu'elle a dit, hop, ça fait dur pour mes oreilles. Alors, je ne sais pas, peut-être tu aimes bien chanter. Il faut que tu chantes, il faut que tu l'adores, il faut que tu le dis, Seigneur, merci. Tu trouves dans cette somme plusieurs raisons pour lesquelles il faut l'adorer, il faut le glorifier. Mais ce n'est pas quelque chose qui va faire seulement 2 ou 3 personnes ici devant. C'est que chacun de nous, je vais le lire tout de suite parce que j'adore la parole de Dieu quand il nous montre des exemples. Il faut qu'on arrive tous à dire, Seigneur, si je suis là, c'est pour ça que je t'ai posé la question ce matin, pourquoi tu es là? Et si tu es là, vraiment, il faut que tu demandes à Dieu de te donner un cœur d'adorateur. Parce que la parole, il nous dit, je ne vais pas le lire complètement, mais Jean 4, il dit que le Seigneur, il cherche des adorateurs, des vrais adorateurs. Parce qu'il existe les faux adorateurs aussi. Et les faux adorateurs, c'est quelqu'un qui va dans un concert, qui va chanter. Imaginons, si je vous dis, il y a les meilleurs chanteurs du monde entier qui va venir à Paris et qui va être dans les stades et que ça sera gratuit et que tu aimes et que tu adores. J'imagine que tu seras là-bas avec le main pour chanter, pour répéter tous les chants que tu connais. Alors pourquoi pas on le fait pour Dieu? Il faut, c'est pour ça que j'ai dit quand j'ai démarré ce message qu'on a oublié le premier amour. Et tu sais, pour tenir, vous le savez, il y a plusieurs de nous ici que ça fait quelques temps qu'on est mariés. Moi, le mois prochain, je vais faire 20 ans de mariage. C'est pas évident, c'est pas facile. La vie, c'est pas facile, mais on est là par la grâce de Dieu. On se pardonne, on continue, on avance. Mais le plus important, en tout cas, c'est de nous retrouver dans l'unité. Alors, la louange, c'est pour glorifier le nom de Dieu. La louange, c'est pas pour choisir les chants. Je sais que c'est pas facile de que tout le monde soit content avec les chants que des fois on va choisir. Je sais qu'il faut entraîner, y travailler, y être ensemble parce qu'il y a plusieurs générations ici. Il y a des personnes qui vont écouter un chant ancien, ils vont dire « Oui, je me rappelle quand j'écoutais ça, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, alors ça fait plaisir. » Mais après, il y a les jeunes, les nouveaux de l'église, la jeunesse qui vont dire « Oh là là, cette chanson-là, mais c'est pas grave, on va tous y arriver. » On va faire un équilibre, on va essayer de faire une église pour tout le monde. Tu sais, je vous invite à lire Apocalypse. Regarde ça, que c'est important. Apocalypse 7. Verset 9 jusqu'à 11. Et ça s'appelle l'église triomphante. Ça parle de l'église. De l'église là-haut, dans le ciel. Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toutes nations. Écoute ça, de toutes nations. C'est un peu comme notre église. On a un peu de quelques nations. Pas de toutes les nations, mais on a pas mal. De toutes tribus et de tout peuple, de toutes langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. Vêtus de tuniques blanches et ils avaient à la main des branches de palmiers. Ils proclamaient d'une voix forte, écoute bien ça, c'était l'Église qui était à proclamer d'une voix forte, le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges s'étaient de vue tout autour du trône des représentants du peuple de Dieu et des quatre êtres vivants. Ils se posternèrent face contre terre devant le trône. Ils adorent Dieu en disant Amen. On a ici une représentation de l'unité dans le ciel. Alors, pourquoi on est là? J'ai dit, on est là pour louer le Seigneur. C'est le premier point, d'accord? Je vais évoquer le deuxième. Pourquoi on est là? On est là pour être unis dans la prière. Matthieu 18. Versets 19 et 20. J'ajoute que si deux, écoute bien ça, deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Verset 20, car là où deux ou trois sont ensemble, en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et ça parle de l'unité, ça parle de prier ensemble. Il y a aussi un verset que j'aime beaucoup et je ne vais pas lire, c'est Ecclésiaste 4, à partir du verset 9, et la parole dit que c'est mieux deux qu'un seul personne. Parce que s'il y a une personne, la parole dit que deux, ils sont plus de salaire qu'une seule personne. La parole dit que si une des deux, il a froid, il y a l'autre qui peut les chauffer. La parole dit que s'il y a un des deux qui tombe, il y a l'autre qui peut les chauffer pour se rétablir. Alors ça parle, mais on évoque toujours ça quand on fait un mariage, parce que ça parle de l'unité d'un couple. Pourquoi passer à plus de deux, passer à trois, à quatre personnes? Parce qu'une fois qu'on est marié, le but du mariage, c'est d'avoir des enfants. Alors qu'il y a des enfants, on n'est pas déjà sur le monde où, on est à 3, on est à 4, on est à 5. Il y a des familles qui sont à 10. Et nous, par exemple, on est à 4. Alors, il faut qu'à 4, on soit dans l'unité. Alors, je te pose la question ce matin. Comme tu vas dans l'unité avec Christ d'abord, et deuxième question, comme tu avances dans l'unité avec ton couple, si tu as un couple. Et comme tu avances, comme tu marches dans l'unité dans ta famille, avec tes enfants, avec tes parents, avec les personnes qui sont proches. Et c'est important de réfléchir à ça. Parce que on va lire tout à l'heure un verset qui nous montre de l'importance. C'est important d'être unis dans la prière. Et c'est pour ça que je voudrais vous motiver vraiment. Parce que on a échangé, on avait demandé à Dieu de nous montrer vraiment comment on peut trouver une stratégie pour que l'Église arrive à travailler dans l'unité. Alors, André, il nous a parlé et il nous a évoqué quelques projets qu'on va démarrer la semaine prochaine, qu'on l'appelle les trios de croissance. Et les trios de croissance, moi, je viens d'évoquer ces versets, si on a 12 ou 3, qu'on est ensemble, unis pour demander quelque chose à Dieu, le Seigneur, il exaucera. Alors, ça passe pour la prière, ça passe pour la compréhension de la parole de Dieu, mais ça passe aussi pour avoir des bons temps de relation entre nous. Samedi prochain, ça sera 11 novembre, on sera là à 18h. On a déjà, on va l'annoncer à la fin du culte. Mais si vous voulez travailler dans l'unité, marcher entre frères et sœurs, n'hésitez pas à venir ou à parler ou à nous demander à peut-être groupe dans l'équipe de direction, à Alexis, à Charles, à Jérôme ou à moi, de quelle manière tu pourras nous rejoindre pour cette trio de croissance qu'on voudrait développer. Qu'est-ce qu'on fera dans ce trio de croissance? On va étudier ensemble la parole, on va prier les uns pour les autres, on va comprendre la vision que le Seigneur il a donnée à notre Église, mais on va essayer d'être dans l'unité comme c'était le cas de la première Église. Alors c'est pour ça que je profite de ce moment pour vous inviter. Si vous voulez participer, vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Tu pourras nous envoyer un message, dire écoute, je suis partant, j'aimerais bien les faire. Comment on va les faire? On va faire deux groupes de 3 personnes. Alors, pour affinité, on n'a pas besoin de faire avec tout le monde de l'Église. Je sais que l'Église il est en train de grandir. On n'est pas nombreux pour l'instant, mais ça nous permet aussi de nous connaître un petit peu les uns et les autres. Mais demander à Dieu de nous dire de quelle manière on pourra travailler. Je voudrais juste vous partager un petit témoignage par rapport à la prière. Et mercredi soir, j'étais dans un rendez-vous pour voir un client. Et moi, je me rappelle que j'avais sorti mon portefeuille, j'avais donné un quart de visite de mon entreprise. Et c'est le dernier moment que je me rappelais que j'avais vu mon portefeuille. J'ai perdu mon portefeuille pendant 2 jours. Alors après jeudi, je l'ai cherché partout et je dis, Seigneur, c'est bizarre, ça m'est arrivé des fois que bon, je les laisse dans un côté parce que des fois j'ai plein de choses dans la tête. Et je dis, vraiment, j'ai perdu l'espoir. Je dis, je l'ai perdu. Je me réveillais déjà vendredi matin. J'avais perdu l'espoir. J'avais cherché dans ma voiture personnelle, dans la camionnette de travail. J'avais cherché dans toute la maison, les filles, tout le monde. Et après, je dis, Seigneur, c'est fini. Il faut que je commence à passer à autre chose. J'appelais André vendredi matin. Je dis, écoute, André, je vais soit un bon moment, vraiment le soutien de l'Église. Il y a des situations que tu pourrais résoudre tout seul. Il y a des moments que tu es au milieu d'une difficulté et tu dis, écoute, ça m'arrivait, je pense que j'ai pu tenir. Mais dans mon cas, ce n'était pas ça. Alors j'étais préoccupé parce que moi, je suis d'origine colombienne, mais je suis espagnol aussi. Et pour moi, perdre les permis de conduire et les titres de séjour, c'est très compliqué parce qu'il faut que je passe à Madrid, en Espagne, à faire tout ça. Alors bon, c'est un peu des soucis. C'est vrai que c'était un grand, c'était pas un grand souci, mais pour moi, ça posait des problèmes. Alors moi, je dis, écoute, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais demander l'aide de nos frères innocents. C'est pour ça que c'est important de rester soudé. Et moi, j'ai pris le téléphone, j'ai parlé d'abord avec André. Il m'a dit, écoute, Oscar, il faut que tu passes à la police, tu fais ça. J'ai partagé un message avec les dirigeants de l'église pour demander la prière. Et en tout cas, j'ai rentré chez moi, j'étais un peu malade, j'avais plein de soucis, plein de choses dans la tête. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Et j'ai appelé à Jaime, je lui ai dit, écoute, on va rechercher une fois encore dans la camionnette. Et lui, il m'a appelé 20 minutes après, il m'a dit, écoute Oscar, j'ai trouvé ton portefeuille. C'est pas grand chose, c'est pas un grand miracle que le Seigneur il a fait. Mais pour moi, ça représente beaucoup. Et c'est ça que c'est l'importance de l'Église. Des fois, on dit, Seigneur, je voudrais voir des miracles, voir des choses s'accomplir. Mais on a vu déjà. On a prié. Il y a des temps de prière les mercredis soirs. Et on a vu comme le Seigneur il a répondu pour un appartement pour Jaime et Marisol. On a vu. Comme les seigneurs, ma femme et moi, on arrivait ici à l'église, ça fait 4 ans et demi, et on était cassés, on était vraiment mal, on n'avait pas d'appartement. Et c'était l'église qui est venue, qui nous a soutenus, a prié pour nous. Et après, on a trouvé un appartement et on a commencé à s'en sortir. Alors, on avait soin les uns des autres. C'est pour ça que tu es là ce matin. C'est pour ça que c'est important. Tu ne peux pas rester isolé. L'ennemi, il vous, je te répète toujours la même chose, mais c'est important. Tu ne peux pas rester isolé à ta maison. Tu peux regarder un culte. Tu peux écouter un message, mais il faut que tu travailles côte à côte avec les personnes de l'Église. La parole dit que 2 frères, quand il y a 2 difficultés, c'est là qu'ils vont grandir. Et des fois, c'est au milieu des moments et des difficultés qu'on arrive vraiment à connaître l'unité. Être unis dans la prière, c'est très important. Être unis dans l'enseignement de la parole. Et c'est le troisième. Tu es là ce matin pour louer à Dieu, pour prier ensemble. Mais c'est important d'écouter la parole de Dieu. Acte 12, 42. Acte 12, 42. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre les pains et à prier ensemble. C'était ça, le modèle d'église qu'on trouve dans la parole. Il faut écouter la parole du Seigneur et nous encourager. C'est pour ça que, comme j'ai dit, quand j'ai démarré les cultes, il faut demander à Dieu qu'est-ce que c'est la parole qu'on doit prêcher, parce que l'Église, il y a un besoin particulier. Et je ne sais pas si ça vous arrive des fois, mais moi, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, j'arrivais tous les dimanches à l'Église avec l'émotion. C'était le premier amour. J'arrivais toujours pour dire, écoute Seigneur, j'aimerais bien écouter qu'est-ce que tu vas me dire aujourd'hui. Et presque tout le temps, la parole qui a été prêchée à l'Église, c'était quelque chose qui venait à mon corps pour me donner la paix et la consolation. Et j'espère que ce message ce matin pour toi soit encourageant. Je ne suis pas là ce matin pour te juger, pour te dire pourquoi tu ne fais pas ça, pourquoi tu ne viens pas alors à l'église. Non, je suis là ce matin pour t'encourager. Et je me rappelle que plusieurs fois, j'ai sorti de l'église quand on a commencé. Et après, je disais à ma femme, écoute, est-ce que tu as parlé avec le pasteur? Parce qu'il a parlé aujourd'hui quelque chose qu'on avait évoqué cette semaine à la maison. Mais il m'a dit, écoute, je n'ai pas parlé avec lui. On n'est pas là vraiment pour regarder la vie de chacun et pour dire, aujourd'hui je vais prêcher de ça parce que j'ai vu que ça manque à un frère ou un soeur. Non, on prêche la parole parce que dans la folie, c'est ça qu'on dit, la folie de la prédication, Dieu il va produire des fruits dans la parole qu'il a envoyée. Jamais il va revenir sans avoir produit un fruit dans la vie de quelqu'un. Et même si tu as entendu ce matin quelque chose que tu peux prendre, il faut que tu dises, Seigneur, cette parole, c'était pour moi. Mais le plus important, ce n'est pas seulement l'écouter, c'est obéir la parole de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont écouté la parole de Dieu, mais qui ne sont pas obéies alors ce n'est pas vraiment le but, c'est écouter et c'est faire qu'est-ce que le Seigneur il voudra faire. J'ai fini avec ça et on va prier dans le quatrième point et pour moi, c'est le plus important. Il faut venir le matin à l'église pour être unis dans l'harmonie pour avancer ensemble. Et c'est ça que je vais partager dans Psaume 131. Ah, c'est très connu ce passage. Je pense que tout le monde adore. C'est un cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Il y a une version qui dit que ça, c'est un cantique graduel. Et quand David il a écrit les psaumes, il y avait des chants qui chantaient tous les peuples d'Israël pendant qu'il faisait son voyage à Jérusalem. Parce qu'il y avait minimum 3 fois pour les peuples juifs que c'était obligatoire, on va dire obligatoire dans la loi de Moïse, de monter à Jérusalem. Parce que Jérusalem, quand tu visites Jérusalem, il est dans la montagne. Et ça, c'était un psaume que David a écrit et que tout le monde chantait en unité et en harmonie dans la joie de savoir qu'on va tous ensemble à Jérusalem. Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron. Il coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur les monts de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Amen. Je vais évoquer quelque chose par rapport à ce verset parce que c'est important. Quand la parole, il nous dit qu'il est bon et agréable de rester ensemble, il fait la comparaison à deux choses qui étaient très connues dans le peuple d'Israël. Et la première comparaison, il va dire, écoute, être dans l'harmonie, être dans la joie, être ensemble, profiter la vie d'une église en unité, c'est comme une huile. Et écoute bien ça, l'huile, il représente l'onction de Dieu. Il représente le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas travailler l'unité sans le Saint-Esprit. C'est nécessaire, c'est important qu'on connaisse le Saint-Esprit. On dit toujours, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il existe l'unité. On a déjà un trio, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors c'est important que nous, on connaît le Saint-Esprit. Parce que la parole dit, c'est comme l'huile parfumée. Il y a un bon odeur. Quand tu arrives dans un endroit qu'il y a l'unité, c'est son bon. On voit tout de suite qu'il y a des bonnes relations, des bons, qui se passent des bonnes choses. Alors, la parole dit, c'est comme cette huile qui était versée, coulée dans la tête d'Aaron. Et écoute bien ça, parce que je vais finir bientôt. Aaron représentait l'autorité. Aaron, c'était le frère de Moïse. Il était appelé pour être le prêtre dans les tombes d'Israël. Alors, il était les premières. Il était une figure d'autorité. La parole dit que tous les rois et toutes les personnes à l'époque qui étaient en autorité, il y avait quelqu'un qui venait et qui versait l'huile dans sa tête. Et cette huile parfumée, il commençait à couler complètement. Et pas seulement pour couvrir sa tête, mais le corps entier. écoute bien ça ce matin. L'église, je vais te dire autre chose, c'est l'endroit de refuge comme la vision qu'on a, André. C'est un endroit de refuge pour nous, pour les chrétiens. Et quand tu es à l'église ce matin, tu es en train de te réfugier et le Seigneur, il met de l'huile qui commence à couler dans ta tête, mais que la parole, il dit, qui va jusqu'à la bordure de ses vêtements. Ça veut dire que tu auras la couverture de tête. On parle d'un corps. J'ai parlé d'un corps de l'église. C'est pour ça que je reviens à ça. Et c'est pour ça que quand cet homme, David, il disait, c'est très bon et agréable être uni. Mais si on le fait, ça sera comme un bon odeur, un huile qui est l'onction de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui te protège de la tête jusqu'à la fin. Il protège complètement. Après, il y a un autre signe ici qui s'appelle, ça parle d'autorité, c'est la barbe d'Aaron. Et ça parle aussi de l'autorité de l'Église. Alors, je te pose la question. Est-ce que tu penses que si l'Église il est unie, il va avoir plus d'autorité? Bien sûr, parce que c'est la parole qui dit. Des fois, on n'est pas capable de faire des choses parce qu'on n'est pas dans l'unité. Je te dis une chose. Il faut que tu réfléchisses si des fois, on est l'élément qui va diviser la famille ou l'Église. Et c'est fort ce que je dis. Mais moi, devant le Seigneur, je passe des fois pour dire, Seigneur, est-ce que je suis un instrument de division pour ma famille? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Qu'est-ce qu'il faut que je reconnaisse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ma vie? Mais pas pour juger ma femme ou mes enfants. Moi, personnellement. Comme ça, on va voir une famille qui est dans l'unité, il va avancer. Un corps qui est dans l'unité, les pieds droits, il ne va pas mettre les pieds pour éviter que les gauches, il va... Non, ce n'est pas comme ça que fonctionne le corps. On est tous ensemble, tous unis. Pourquoi? Pour avancer. Avec un but, oui, la gloire de Dieu. Et comment on dit, partager l'évangile dans tout le monde entier. Alors, c'est un signe d'unité. Le huile qui coule dans l'événement d'Aaron. Et après, il y a un deuxième exemple, la parole dit, verset 3, c'est comme la rosée. La rosée, c'est un symbole de bénédiction. C'est de l'eau. C'est quand ça commence à la pluie le matin. Et la rosée, il a une particularité qui descend de ciel, qui vient, qui va donner humidité à la terre. Je ne sais pas, mais j'avais dans un endroit qu'il y a beaucoup de pluie, que c'est une saison des fois très 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 mouillée. Et quand on se réveille le matin en Colombie, on sent aussi la rosée le matin. On sent, c'est comme la terre, c'est comme quelque chose comme ça. Alors c'est ça la rosée qui fait du bien, que c'est un symbole aussi d'unité. Et c'est un symbole aussi de bénédiction. Alors, qu'est-ce qui va faire cette rosée dans ta vie? Qu'est-ce qui va faire ça dans l'unité de l'Église? Il va permettre vraiment de voir deux choses. Et c'est la bénédiction et la vie éternelle. Et écoute ça bien. La promesse que le Seigneur donne dans une famille, dans une entreprise, dans une église qui est en unité, c'est la bénédiction ici dans la terre, mais aussi dans l'éternité, parce que c'est la promesse que le Seigneur il a donnée. Je laisse l'aval dans ton champ ce matin. Je te laisse prier ce matin. Je voulais bien demander à les filles si on peut finir par une chanson qu'on a chantée ce matin. Isabella, elle est là avec nous? Non, il est en bas. Tu peux l'appeler? Dani, on l'a fait tous les deux, tu penses? C'est trop pour toi. On va chanter la première, Dani. Mais on va les faire tous ensemble. On va les faire avec notre corps. On va être reconnaissant ce matin avec Dieu, parce que c'est lui qui nous a donné la vie, qui nous a donné la vie éternelle. C'est lui qui t'a donné ta femme, qui t'a donné tes enfants. C'est lui qui t'a comblé de grâce et de miséricorde. C'est lui qui t'a aimé en premier. C'est pas nous qui on a choisi de nous rapprocher de Dieu. Lui qui t'a appelé un jour. Et si tu es là ce matin, je dis tout le temps, mais c'est pas par hasard. C'est pas par hasard que tu es là ce matin. Dieu t'a choisi. Il t'a appelé. On va fermer les yeux si tu veux. On va nous imaginer qu'on est comme les passages que j'ai lus tout à l'heure. Et dans les ciels, on a lu tout à l'heure les Apocalypse. Il y a la foule qui est arrivée. Et c'est un peu comme notre église. Des différentes nationalités. On parle des différentes langues. Mais toute cette foule qui a été dans les ciels, ils avaient une chose en commun. Et c'était que on a été tous sauvés pour Jésus. Je voudrais que tu commences ce matin pour lui reconnaître toutes les choses qu'il a fait pour toi. Seigneur, merci pour la famille que tu m'as donnée, Seigneur. Merci pour cet endroit, ce bâtiment que tu as choisi un jour, Seigneur, pour que je sois là, Seigneur. Je voudrais comprendre ce matin, Seigneur, que l'église, ce n'est pas cet édifice, Seigneur, que l'église, c'est moi, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est mes frères, c'est mes soeurs, Seigneur. Je voudrais reconnaître, Seigneur, tous les bienfaits que tu as fait pour moi, Seigneur. J'étais, Seigneur, dans les vallées des mortes. J'ai traversé les déserts, j'étais en difficulté. Mais jamais tu m'as laissé tomber, Seigneur. Jamais tu m'as laissé tout seul, Seigneur. Tu as payé un prix impossible de payer pour moi. Je voudrais, Seigneur, lever, Seigneur, mon corps, Seigneur, et te dire que tu es grand, Seigneur, et que tu es digne, Seigneur. On va chanter tous ensemble.